VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Niamey. Bienvenue à notre journal. Au Niger, la Cour de cassation a rejeté la demande de liberté provisoire pour Ama Amadou, l'ancien président du Parlement. Cet opposant et candidat à la présidentielle est écroué depuis 3 semaines pour son implication dans une affaire de trafic de bébés. Idriss Fall nous en dit plus.
La Cour de cassation a jugé que la demande de liberté provisoire de Ama Amadou est irrecevable. Ses avocats attendent de savoir pourquoi ils avaient plaidé le 2 décembre pour obtenir la liberté provisoire pour leur client. Ama Amadou a été arrêté dès sa descente d'avion le 14 novembre et écroué à la prison de Filenge au nord-est de la capitale. Il était revenu dans son pays après 1 an d'exil en France. L'ancien président de l'Assemblée nationale avait fui à la fin août 2014. Les députés avaient autorisé son audition par la justice dans cette affaire de trafic présumé de bébés. Il a toujours dénoncé un dossier politique pour l'écarter de la présidentielle prévue le 21 février 2016, alors que le gouvernement parle d'un dossier de droit commun. Une vingtaine de personnes, dont Abdoulabo, un ancien ministre proche du régime et un autre candidat à la présidentielle, ont été incarcérés pendant des mois pour la même affaire, mais ont bénéficié de la liberté provisoire en attendant leur procès.
Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a mis en place une commission de réforme de l'armée pour, entre autres, interdire définitivement l'implication du militaire dans la politique. Le point avec Michel Joseph.
Pour Michel Kafando, cette commission d'une 30aine d'officiers supérieurs et d'officiers généraux devra, dans un délai de 6 mois, présenter des propositions réalistes pour la construction d'une armée républicaine. Le président intérimaire a souligné que, durant les 27 ans de règne du régime précédent, les forces armées nationales ont continué de perdre les valeurs qui fondent une armée. Depuis son indépendance, le Burkina Faso a connu une demi-douzaine de coups d'État. 6 de ses 8 présidents sont des militaires, au moins 4 mutilés. Les mutineries ont éclaté depuis 1999. Cette armée de quelque 12 000 hommes a été mise à rude épreuve durant l'insurrection populaire qui a chassé l'ex-président Blaise Compaoré et surtout après le putsch manqué du 17 septembre 2015. Une 40aine de militaires ont été arrêtés, dont le général Gilbert Diendéré. Rochemark Christian Kabore, le président élu, aura du pain sur la planche pour ce qui est de ramener définitivement les soldats burkinabés dans les casernes.
L'affaire Guillaume Soro en France, levée du mandat d'amener de la justice française contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La juge d'instruction parisienne Sabine Kéris a reconnu l'immunité et le statut diplomatique du leader politique ivoirien. Cette annulation est intervenue après une protestation officielle du gouvernement de Côte d'Ivoire. Éric Manirakiza.
Le mandat d'amener avait provoqué un tollé à Abidjan. Charles Kofi Dibi, ministre des Affaires étrangères, avait, à travers l'ambassadeur de France, signifié hier matin à son homologue Laurent Fabius que l'attitude de la justice française violait complètement les accords de coopération, la Convention de Vienne et les traités pour les immunités. Le chef de la diplomatie ivoirienne avait donc exigé le respect de l'immunité absolue dont jouit Guillaume Soro en mission à Paris pour la COP21. La défense de M. Soro a présenté à la juge les documents soutenant son séjour à Paris. Sabine Kéris a donc revu sa copie, mais l'affaire restait pendante. Et voulait interroger M. Soro pour enlèvement, séquestration et traitement dégradant et inhumain, une plainte de Michel Gbagbo, fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, déposée en 2012. La bataille judiciaire ne fait que commencer car Guillaume Soro a décidé dans les prochains jours d'attaquer son plaignant devant la même justice pour dénonciation calomnieuse.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, 8 corps ont été retrouvés ce mercredi matin dans 3 quartiers de la capitale. Parmi les victimes, 5 jeunes qui auraient été sommairement exécutés aujourd'hui par les policiers, selon les témoignages de la population locale. On assiste depuis lundi à une intensification des violences à Bujumbura. Le compte-rendu de notre correspondant sur place, Christophe Nkurunziza.
Il est 7h du matin lorsqu'un groupe de policiers entre dans la parcelle numéro 26, sise à la 15e avenue du quartier Chivitoke, au nord de la capitale, selon les témoignages de la population de la même avenue. Quelques minutes avant que les jeunes habitant cette maison ne soient froidement exécutés par des policiers, une grenade avait été jetée dehors sur la même avenue et les policiers, qui étaient à la recherche des bandits armés, ont rassemblé ces jeunes dans la rue. Certaines des victimes ont reçu une balle dans la poitrine ou dans la tête. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, les cadavres avaient été évacués, mais les populations étaient sous le choc. Mais pour le porte-parole de la police, ces jeunes de Chivitoke venaient de tirer sur des policiers qui étaient en patrouille. La police, selon Pierre Ngurikiye, n'a fait que répliquer sur des jeunes qui avaient des armes et des grenades. Encore, dans certains Massoudi avaient été trouvés très tôt ce matin à la 6e avenue du quartier Bouiza, tandis que le porte-parole de la police reconnaît qu'un policier avait été tué mardi soir tout près des bureaux de l'état civil du même quartier. Une autre personne à moto a été tuée ce mercredi matin sur l'avenue de l'imprimerie de la même localité. Signalons que la violence s'est intensifiée ces derniers jours dans la capitale Bujumbura. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Centrafrique, alors que la liste officielle des candidats aux présidentielles publiée par la Cour constitutionnelle suscite encore des contestations, les cartes d'électeurs et les bulletins de vote en vue du référendum constitutionnel de dimanche sont enfin arrivés aujourd'hui à Bangui. Le point avec notre correspondant dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
Environ 2 millions de cartes d'électeurs confectionnées en France sont arrivées cet après-midi à l'aéroport de Bangui. Dans le lot des matériels, on compte également un nombre important de bulletins de vote en vue du référendum du 13 décembre prochain. Le responsable de la commission logistique à l'autorité nationale des élections, Renessa Kanga Moruba, a précisé que la distribution de ces cartes ne va pas tarder. Entre-temps, les contestations continuent d'affluer au lendemain de la publication de la liste officielle des candidats à la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, le PQUD, le parti de Patrice Edouard Ngaïsona, l'ancien coordonnateur des miliciens anti-Balaka, lui aussi écarté de la course, a qualifié de politique la décision de la Cour constitutionnelle de transition. Il demande de ce fait aux juges constitutionnels de revoir leur position en vue d'éviter un coup au processus électoral. Dans les secteurs nord de la capitale, tout est revenu ce mercredi dans l'ordre. Toutes les barricades érigées mardi par des manifestants proches de certains candidats récalés ont été démantelées. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
RDC, les Nations Unies s'inquiètent de rétrécissement de l'espace démocratique dans le pays à l'approche d'élections encore incertaines. Dans un rapport, l'ONU exhorte le gouvernement congolais à protéger les droits civils et politiques. Les détails avec Eddy Sango.
Selon la mission de l'ONU au Congo et les hauts commissariats des Nations Unies pour les droits de l'homme qui ont publié les rapports hier, des professionnels des médias, des membres de la société civile et des opposants politiques ont été ciblés depuis le début de l'année par des menaces, des arrestations et des détentions arbitraires. L'ONU se préoccupe d'une répression inquiétante en RDC. Elle a documenté 143 violations des droits de l'homme en lien avec les processus électoraux au cours des trois premiers trimestres de 2015. Durant la période, au moins 649 personnes ont été arrêtées et détenues arbitrairement, indiquent les rapports. Dans une lettre, le ministre congolais de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qualifie ces accusations d'acharnement teinté de mauvaise foi et dénonce les manques d'objectivité et des précisions d'un rapport qui, selon lui, ne trouve rien à reprocher aux opposants. Ces accusations tombent alors que l'ONG Lucha, Lutte pour le changement, dénonce les intimidations du maire de Goma qui l'enjoint de cesser toute activité de nature à perturber l'ordre public sous peine des sanctions.
Actualité américaine maintenant, la Chambre des États, des représentants des États-Unis a adopté hier en début de soirée un projet de loi renforçant le contrôle des voyageurs arrivant dans le pays. Plus de détails avec Chérubin Dorsil.
Dans la foulée des attentats du 13 novembre à Paris, des voix se sont levées pour réclamer un réexamen du Visa Waiver Program, un programme d'exemption de visa dont bénéficient 38 pays. Par exemple, deux pays d'où viennent la plupart des terroristes qui ont attaqué la capitale française le mois dernier, la France et la Belgique, font partie de ce programme. Il aurait été donc facile à un visiteur venant de ces pays de fouler le sol américain. Le vote de ce 8 décembre prévoit l'obtention d'un visa d'entrée pour les citoyens d'Irak, de Syrie et d'autres pays abritant des groupes extrémistes, ainsi que toute personne ayant visité ces pays durant les 5 ans précédant la demande de visa. Avec le soutien de la Maison-Blanche, la proposition a été adoptée par 407 voix contre 19. Elle fera l'objet d'un vote au Sénat à une date ultérieure. Un autre programme ayant attiré l'attention des membres du Congrès et du département de la sécurité intérieure, c'est le Visa K, facilitant l'admission plus ou moins rapide aux États-Unis d'une personne fiancée à un citoyen américain en vue de leur mariage dans un délai de 90 jours.
Et pour terminer l'enquête sur les attentats de Paris, un Français de 23 ans parti en Syrie fin 2013 a été identifié comme le troisième kamikaze de la salle de concert du Bataclan, théâtre de la principale tuerie des attentats qui ont fait au total 130 morts le 13 novembre à Paris. Il s'agirait du djihadiste Foued Mohamed Agad, originaire de Strasbourg. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.